Mais pendant ce temps, sans perdre une minute, M. Gerbois avait sauté dans la première voiture qui passait.
« Cocher, au métro de la Concorde !»
Le professeur sortit du métro place du Palais-Royal, courut vers une autre voiture et se fit conduire place de la Bourse. Deuxième voyage en métro, puis avenue de Villiers, troisième voiture.
« Cocher, 25 rue Clapeyron !»
Le 25 de la rue Clapeyron est séparé du boulevard des Batignolles par la maison qui fait l'angle. Il monta au premier étage et sonna.
C'est bien ici que demeure Maître Detineau ?
C'est moi-même. Monsieur Gerbois, sans doute ?
Parfaitement.
Je vous attendais, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer ?
Quand Monsieur Gerbois pénétra dans le bureau de l'avocat, la pendule marquait 3 heures. Et tout de suite, il dit :
C'est l'heure qu'il m'a fixée. Il n'est pas là ?
Pas encore.
Monsieur Gerbois s'assit, s'épongea le front, regarda sa montre comme s'il ne connaissait pas l'heure et reprit anxieusement
« Viendra-t-il ? »
L'avocat répondit
« Vous m'interrogez, monsieur, sur la chose du monde que je suis le plus curieux de savoir. Jamais je n'ai ressenti pareille impatience. En tout cas, s'il vient, il risque gros. Cette maison est très surveillée depuis 15 jours. On se défie de moi. »
Et de moi encore davantage. Aussi, je n'affirme pas que les agents, attachés à ma personne, aient perdu ma trace.
Mais alors...
Ce ne serait point de ma faute, s'écria vivement le professeur. Et l'on n'a rien à me reprocher. Qu'ai-je promis ? D'obéir à ses ordres. Eh bien, j'ai obéi aveuglément à ses ordres. J'ai touché l'argent à l'heure fixée par lui, et je me suis rendu chez vous de la façon qu'il m'a prescrite. Responsable du malheur de ma fille, j'ai tenu mes engagements en toute loyauté. À lui de tenir les siens. »
Et il ajouta, de la même voix anxieuse,
« Il ramènera ma fille, n'est-ce pas ?»«
Je l'espère. » »«
Cependant, vous l'avez vu. » »«
Moi ? Mais non. Il m'a simplement demandé par lettre de vous recevoir tous deux, de congédier mes domestiques avant 3 heures et de n'admettre personne dans mon appartement avant votre arrivée et son départ. Si je ne consentais pas à cette proposition, il me priait de l'en prévenir par 2 lignes à l'Écho de France. Mais je suis trop heureux de rendre service à Arsène Lupin et je consens à tout. »
Monsieur Gerbois gémit.
« Hélas ! Comment tout cela finira-t-il ? »
Il tira de sa poche les billets de banque, les étala sur la table et en fit 2 paquets de même nombre. Puis ils se turent. De temps à autre, M. Gerbois prêtait l'oreille. N'avait-on pas sonné ? Avec les minutes, son angoisse augmentait. Et Maître Detineau aussi éprouvait une impression presque douloureuse. Un moment même, l'avocat perdit tout son sang-froid. Il se leva brusquement.
« Nous ne la verrons pas. Comment voulez-vous ? Ce serait de la folie de sa part. Qu'il ait confiance en nous, soit. Nous sommes d'honnêtes gens incapables de le trahir. Mais le danger n'est pas seulement ici. »
Et M. Gerbois, écrasé, les 2 mains sur les billets, balbutiait.
« Qu'il vienne, mon Dieu, qu'il vienne ! Je donnerai tout cela pour retrouver Suzanne. »
La moitié suffira, monsieur Gerbois. Quelqu'un se tenait sur le seuil, un homme jeune, élégamment vêtu, en qui monsieur Gerbois reconnut aussitôt l'individu qu'il avait abordé près de la boutique de bric-à-brac à Versailles. Il bondit vers lui.
Et Suzanne, où est ma fille ?
Arsène Lupin ferma la porte soigneusement. Et tout en défaisant ses gants du geste le plus paisible, il dit à l'avocat « Mon cher maître, je ne saurais trop vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez consenti à défendre mes droits. Je ne l'oublierai pas. » Maître Detineau murmura
« Mais vous n'avez pas sonné, je n'ai pas entendu la porte. »
Les sonnettes et les portes sont des choses qui doivent fonctionner sans qu'on les entende jamais. Me voilà tout de même, c'est l'essentiel.
« Ma fille, Suzanne, qu'en avez-vous fait ?»
répéta le professeur. « Mon Dieu, monsieur !» dit Lupin. « Que vous êtes pressé ! Allons, rassurez-vous, encore un instant et mademoiselle votre fille sera dans vos bras. » Il se promena, puis, du ton d'un grand seigneur qui distribue des éloges, « Monsieur Gerbois, je vous félicite de l'habileté avec laquelle vous avez agi tout à l'heure. Si l'automobile n'avait pas eu cette panne absurde, on se retrouvait tout simplement à l'étoile, et l'on épargnait à maître de Tinan l'ennui de cette visite. Enfin, c'était écrit. » Il aperçut les deux liasses de banquenotes et s'écria « Ah, parfait ! Le million est là ! Nous ne perdrons pas de temps. » « Vous permettez ?»«
Mais !»
objecta maître de Tinan en se plaçant devant la table.
« Mademoiselle Gerbois n'est pas encore arrivée. »«
Eh bien ?»«
Eh bien, sa présence n'est-elle pas indispensable ?»«
Je comprends. Arsène Lupin n'inspire qu'une confiance relative. Il empoche le demi-million et ne rend pas l'otage. »« Ah, oh, mon cher maître !» Je suis un grand méconnu. Parce que le destin m'a conduite à des actes de nature un peu spéciale, on suspecte ma bonne foi à moi. Moi qui suis l'homme du scrupule et de la délicatesse. D'ailleurs, mon cher maître, si vous avez peur, ouvrez votre fenêtre et appelez. Il y a bien une douzaine d'agents dans la rue.
Vous en croyez ?
Arsène Lupin souleva le rideau. « Je crois, monsieur Gerbois, incapable de dépister Ganimard. »« Que vous disais-je ? Le voici, ce brave ami. »«
Est-ce possible ? » s'écria le professeur. « Je vous jure, cependant,
que vous ne m'avez pas trahi. »« Oh, je n'en doute pas, mais les gaillards sont habiles. »« Tenez, Folenfant que j'aperçois, et Gréhome, et Dieuzy. »« Tous mes bons camarades, quoi. » Maître de Tinan le regardait avec surprise. Quelle tranquillité! Il riait d'un rire heureux, comme s'il se divertissait à quelque jeu d'enfant et qu'aucun péril ne l'eût menacé. Plus encore que la vue des agents, cette insouciance rassura l'avocat. Il s'éloigna de la table où se trouvaient les billets de banque. Arsène Lupin saisit l'une après l'autre les deux liasses, allégea chacune d'elles de 25 billets et tendant à maître de Tinan les 50 billets ainsi obtenus, « La part d'honoraire de M. Gerbois, mon cher maître, et celle d'Arsène Lupin. Nous vous devons bien cela. »«
Vous ne me devez rien !»
répliqua maître de Tinan.
« Comment ? Et tout le mal que nous vous causons ?
Et tout le plaisir que je prends à me donner ce mal ?
C'est-à-dire, mon cher maître, que vous ne voulez rien accepter d'Arsène Lupin ? Voilà ce que c'est d'avoir une mauvaise réputation. » Il tendit les 50 000 francs au professeur. « Monsieur, en souvenir de notre bonne rencontre, permettez-moi de vous remettre ceci. Ce sera mon cadeau de noces à mademoiselle Gerbois. » Monsieur Gerbois prit vivement les billets, mais protesta.
« Ma fille ne se marie pas. »
« Elle ne se marie pas si vous lui refusez votre consentement. » « Mais elle brûle de se marier. »«
Qu'en savez-vous ? » ?»«
Je sais que les jeunes filles font souvent des rêves sans l'autorisation de leur papa. Heureusement qu'il y a de bons génies qui s'appellent Arsène Lupin et qui, dans le fond des secrétaires, découvrent le secret de ces âmes charmantes. »«
Vous n'y avez pas découvert autre chose ? » demanda maître de Tinan. « J'avoue que je serais fort curieux de savoir pourquoi ce meuble fut l'objet de vos soins. »«
Raison historique, mon cher maître. Bien que, contrairement à l'avis de M. Gerbois, il ne contint aucun autre trésor que le billet de loterie, et cela, je l'ignorais, j'y tenais et je le recherchais depuis longtemps. Ce secrétaire en bois d'if et d'acajou, décoré de chapiteaux à feuilles d'acanthe, fut retrouvée dans la petite maison discrète qu'habitait à Boulogne Marie Walewska. Et il porte sur l'un des tiroirs l'inscription « Dédié à Napoléon Ier, empereur des Français, par son très fidèle serviteur, mention. » Et en dessous, ces mots gravés à la pointe d'un couteau « À toi, Marie. » Par la suite, Napoléon le fit recopier pour l'impératrice Joséphine, de sorte que le secrétaire qu'on admirait à la Malmaison n'était qu'une copie imparfaite de celui qui désormais fait partie de mes collections. Le professeur gémit.
« Hélas, si j'avais su chez le marchand, avec quelle hâte je vous l'aurais cédé !»
Arsène Lupin dit en riant. « Et vous auriez eu, en outre, cet avantage appréciable de conserver pour vous seul le numéro 514, série 23. »«
Ce qui ne vous aurait pas conduit à enlever ma fille, que tout cela a dû bouleverser. »«
Tout cela ?»«
Cet enlèvement !»«
Mais, mon cher monsieur, vous faites erreur. Mademoiselle Gerbois n'a pas été enlevée. »«
Ma fille n'a pas été enlevée ?»«
Nullement. » Qui dit enlèvement dit violence. Or, c'est de son plein gré qu'elle l'a servi d'otage.
De son plein gré ?
Répéta M. Gerbois, confondu. Et presque sur sa demande. Comment ? Une jeune fille intelligente comme Mademoiselle Gerbois, et qui plus est, cultivant au fond de son âme une passion inavouée, aurait refusé de conquérir sa dot ? Ah, je vous jure qu'il a été facile de lui faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre votre obstination. Maître de Tinan s'amusait beaucoup. Il objecta.
Le plus difficile était de vous entendre avec elle. Il est inadmissible que Mademoiselle Gerbois se soit laissée aborder.
Oh, pas moi, non. Je n'ai même pas l'honneur de la connaître. C'est une personne de mes amis qui a bien voulu entamer les négociations.
« La dame blonde de l'automobile, sans doute, » interrompit Maître de Tinan.
« Justement. Dès la première entrevue auprès du lycée, tout était réglé. Depuis, Mademoiselle Gerbois et sa nouvelle amie ont voyagé, visitant la Belgique et la Hollande de la manière la plus agréable et la plus instructive pour une jeune fille. Du reste, elle-même va vous expliquer. » « C'est elle !» dit Lupin. « Mon cher maître, si vous voulez bien... » L'avocat se précipita. Deux jeunes femmes entrèrent. L'une se jeta dans les bras de M. Gerbois. L'autre s'approcha de Lupin. Elle était de taille élevée, le buste harmonieux, la figure très pâle, et ses cheveux blonds, d'un blond étincelant, se divisaient en deux bandeaux ondulés et très lâches. Vêtue de noir, sans autre ornement qu'un collier de jais à quintuple tour, elle paraissait cependant d'une élégance raffinée. Arsène Lupin lui dit quelques mots, puis, saluant Mademoiselle Gerbois, « Je vous demande pardon, mademoiselle, de toutes ces tribulations, mais j'espère cependant que vous n'avez pas été trop malheureuse. »«
Malheureuse ? J'aurais même été très heureuse !» S'il n'y avait pas eu mon pauvre père.
Alors tout est pour le mieux. Embrassez-le de nouveau et profitez de l'occasion, elle est excellente, pour lui parler de votre cousin.
Mon cousin ? Que signifie ? Je ne comprends pas.
Mais si vous comprenez, votre cousin Philippe, ce jeune homme dont vous gardez précieusement les lettres, Suzanne rougit, perdit contenance et enfin, comme le conseiller Lupin, se jeta de nouveau dans les bras de son père.